BFM Business présente l'émission qui vous sort de votre boîte. Happy Boulot. Erwan Maurice.
Bonjour à tous, c'est l'heure de votre émission RH. Bienvenue dans Happy Boulot. On vous accompagne pendant une demi-heure. Comment travailler sur l'attractivité de son entreprise? Vous entendrez le DRH du spécialiste européen des services numériques Inetom qui a réussi à attirer 9000 nouveaux salariés dans le monde en un an. Il nous expliquera comment. Dans 10 minutes, comme c'est le cas traditionnellement, c'est la séquence service de notre émission. On répond à vos questions avec notre avocat et avec vous, Jeanne. Bonjour.
Bonjour Erwan, je vous ai pas trop manqué?
Ah si, beaucoup. Je suis content de vous revoir.
Aujourd'hui, c'est l'avocate Marguerite Schaetz, avocate en droit des entreprises en difficulté, fondatrice du cabinet Edma, qui nous répond à une question sur une problématique liée au JO. Écrivez-nous vous aussi pour interpeller nos avocats en droit du travail sur happybolo@bfmbusiness.fr.
Faites-vous partie de ces personnes qui font les mortes face au changement, en espérant peut-être pouvoir l'éviter de cette manière? Si c'est le cas, restez bien avec nous. On va vous aider à adopter la bonne attitude dans notre meeting avec notre invité Geoffrey Guillochin, co-auteur du syndrome de l'opossum. Et en fin d'émission, dans le lab, nous verrons comment l'intelligence artificielle se met au service de la mobilité interne. Voilà le programme. Merci d'être avec nous. C'est parti. On vous sort de votre boîte.
Happy Boulot, le DRH de la semaine.
Avec une question, comment attirer davantage de profils pour faire grandir son entreprise? C'est la question que nous posons au DRH de la semaine. Bruno Dassola, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être notre invité. Vous êtes DRH d'Inetom, ancien GFI informatique, spécialiste européen des services numériques. D'un mot, peut-être d'abord votre cœur de métier pour qu'on comprenne bien.
Notre cœur de métier, c'est l'accompagnement de nos clients dans tout ce qui est transformation numérique, transformation digitale. Donc on s'occupe sur toute la chaîne de valeur technologique, infrastructure, gestion des serveurs, outsourcing et puis l'intégration de solutions aussi avec des partenaires type Microsoft, SAP, etc.
Donc une ESN, entreprise de services du numérique, 28 000 salariés dans le monde et c'est en croissance, 2 400 recrutements en France l'année dernière, 9 000 dans l'ensemble du groupe. Oui. On sait bien que l'industrie numérique n'a pas de mal à recruter, hein, on en parle quotidiennement sur cette chaîne, mais c'est une industrie compétitive dans laquelle on s'arrache les meilleurs profils. Alors comment est-ce que vous avez fait, vous, pour réussir à faire signer 9 000 contrats dans le monde, hein, j'entends bien, l'année dernière?
Oui, on est présent dans 19 pays, donc 9 000 recrutements dans le monde. Effectivement, c'est pas simple. Il faut avoir une stratégie qui est claire. En fait, ça part de quoi? Ça part déjà de notre capacité à recruter en répondant aux attentes des candidats. Donc on comprend nos candidats, on sait ce qu'ils souhaitent voir mettre en œuvre. Il faut qu'on soit agile dans ce processus, dématérialiser les entretiens, etc.
Ouais. D'abord, est-ce qu'il y a un profil de candidat? C'est plutôt des jeunes, des seniors, ou il y a encore de tout?
Aujourd'hui, on cherche les meilleurs talents. Et c'est vraiment ce qu'il faut pour accompagner notre... Non, c'est pas forcément les seniors, c'est pas forcément les juniors, c'est tout le monde. En fait, on a une success story aujourd'hui très clairement chez Inetom depuis plusieurs années. On a une ambition qui est encore très très forte. Et donc, quel que soit l'âge des candidats, on recherche les meilleurs talents. Ça, c'est très clair. Ouais. Et après, pour répondre à votre question sur comment on réussit à travailler sur l'attractivité, c'est le processus de recrutement qui est vraiment le premier contact avec le candidat dans l'entreprise. C'est aussi comment on donne du sens, comment on présente notre ambition. On a une ambition qui est très importante. On souhaite doubler notre taille en l'espace de quelques années. Donc ça, c'est vraiment déjà une histoire, une belle histoire à raconter aux futurs candidats. Et puis après, c'est quelle proposition de valeur ajoutée on a pour les salariés. Oui. On propose un parcours de carrière, on propose des formations, on propose des certifications. On a la chance aussi chez Inetom de travailler sur plusieurs secteurs d'activité, sur des projets qui peuvent être complètement différents. Donc finalement, on a un parcours professionnel et personnel à développer au sein de l'entreprise.
Mais est-ce que toutes les entreprises de votre industrie aujourd'hui ne font pas ça? Parce que comment recruter quand on fait pas de la formation, quand on ne propose pas d'évolution de carrière, quand on ne s'intéresse pas aux individus au-delà de groupes, enfin, d'une vision globale? Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne aussi bien?
Alors, c'est vraiment toute la difficulté, vous avez mis le doigt dessus. C'est comment on se démarque de nos concurrents. Et bien sûr, c'est pas simple. C'est très compliqué. Il faut qu'on ait les idées extrêmement claires sur ce qu'on veut faire, comment on veut proposer un parcours de carrière qui soit intelligent aux collaborateurs. Et puis après, vous avez d'autres thématiques à côté qui vont venir impacter justement cette expérience collaborateur. Le télétravail, on a une politique très volontariste sur la partie télétravail.
Regardez, c'est 180 jours de télétravail.
Tout à fait. Plutôt que d'arriver sur quelque chose d'un peu timé, je dirais, en disant c'est forcément 2 jours maximum par semaine, on dit vous avez un quota de 180 jours à utiliser au cours de l'année avec l'autorisation de votre manager, mais vous avez la possibilité de partir en télétravail lorsque vous le souhaitez, bien sûr.
Mais ça, le télétravail, alors c'est très bien, mais j'ai l'impression, moi, que dans votre industrie, c'est même plus un sujet. Il n'y a pas une entreprise qui va interdire le télétravail ou qui va dire on encadre de manière très stricte, si?
Alors, je crois que c'est pas un sujet de toute façon de notre industrie. D'une manière générale, toutes les entreprises donnent accès au télétravail.
Alors, celles qui peuvent se le permettre, enfin, sur certains postes qui sont pas télétravaillables.
Alors, bien sûr, il y a des postes qui ne sont pas télétravaillables. Mais aujourd'hui, on s'organise dans le numérique. On peut. La plus grande difficulté qu'on avait jusqu'à présent, c'était de convaincre le client finalement qu'on pouvait délivrer la même qualité de service en étant sur place chez lui dans ses locaux ou en télétravail. Et ça, je pense qu'on a fait la preuve de cette capacité-là.
Semaine de 4 jours, pardon, c'est un sujet chez vous ou pas? Parce qu'on en parle aussi beaucoup sur ces questions.
C'est pas
RH.
Un sujet en tant que tel. Je crois que ce qui est important, c'est la flexibilité et comment nous, on peut s'organiser pour faire en sorte que nos collaborateurs concilient vie privée et vie professionnelle de la meilleure des manières. On n'a pas de collaborateur aujourd'hui qui nous dit « je veux travailler 3 jours par semaine, je veux travailler 4 jours » ou alors on le fait effectivement en temps partiel. Et je crois que ce qui est important, c'est que nos collaborateurs doivent avoir la possibilité de concilier ces deux pans de leur vie. Et c'est ce qu'on arrive à faire avec du télétravail, mais pas que, c'est aussi l'organisation du travail avec nos managers qui doit faire la différence.
Alors je disais, dans le monde, 9000 recrutements, en France, 2400. C'est des chiffres qui sont très importants. Est-ce que c'était les objectifs que vous étiez fixés sont atteints ou vous auriez pu recruter encore plus?
Non, sur l'année dernière, on aurait pu recruter plus. Une fois, l'ambition est énorme. Sur un pays comme la France, on a pratiquement 11 000 salariés. L'objectif, c'est d'en recruter généralement 2 à 3 000 collaborateurs, nouveaux collaborateurs par an.
Vous êtes un groupe mondial. Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques à importer de l'étranger?
Totalement.
Sur le plan RH.
Totalement. Et je crois que c'est ce qui fait notre force aujourd'hui. On est présent dans 19 pays. On a eu la certification Top Employer, par exemple, au niveau Europe, ce qui veut dire qu'on a 5 pays qui ont cette certification aujourd'hui. On est en train de concourir pour cette certification au Mexique également. Et donc l'idée pour moi, c'est d'avoir une vision qui soit parfaite sur toutes les pratiques RH qui existent dans tous les pays.
Qu'est-ce que vous avez importé par exemple?
La question du télétravail, par exemple, était bien développée dans d'autres pays comme en Amérique latine ou comme en Afrique du Nord, où c'était déjà un petit peu plus en avance par rapport à ce qu'on faisait dans les pays comme l'Espagne ou le Portugal. Donc ça, on l'a développé. On est en train d'aussi développer des bonnes pratiques comme la féminisation.
Voilà, j'allais y venir parce que justement, les profils féminins dans la tech, c'est toujours un sujet. On est loin d'une égalité, enfin d'une parité.
Loin, bien sûr.
Comment vous faites? Qu'est-ce que vous mettez en œuvre?
Alors déjà, c'est du volontarisme. C'est-à-dire que il faut absolument refuser le principe qui voudrait dire que c'est très compliqué d'avoir des femmes dans la tech. C'est pas un état de fait et on peut combattre cela. Et donc Inetum se positionne sur ce combat-là de manière très très claire. On a près de 30% de notre effectif aujourd'hui au niveau global qui sont des femmes, mais on a des pays comme la Tunisie qui ont plus de 50% de leur effectif qui sont des femmes, comme en Amérique latine. Donc ça veut dire que c'est possible.
Il y a des choses à aller chercher là-bas aussi.
Il y a des choses à aller chercher là-bas. La présence auprès des écoles, mais quand je parle de la présence auprès des écoles, c'est pas uniquement les universités ou les écoles d'informatique, mais c'est dès le plus jeune âge, prendre le temps nous-mêmes, et c'est notre devoir, d'aller dans ces écoles pour expliquer en quoi les métiers de l'informatique, les métiers de la technologie sont aussi le futur pour ces jeunes enfants.
Et ça, l'éducation nationale vous laisse le faire ou pas? Parce qu'on l'a déjà entendu cette émission.
Ouais, bien sûr, aujourd'hui on le fait. Il y a quelques semaines, on était dans une école primaire à Saint-Ouen pour aller expliquer cela, il y a quelques mois à Nantes, et on le fait dans tous les pays, et c'est important de le faire.
Ils sont réceptifs, les jeunes?
Bien sûr, ils sont réceptifs, et il faut lutter contre ces postulats sociaux de base. C'est-à-dire qu'on a des jeunes femmes qui ont envie de travailler dans la tech, et puis quand elles arrivent en seconde ou en première, finalement, elles se disent que c'est pas pour elles et qu'il faut faire autre chose.
Bruno Dassola, il nous reste une minute pour mieux savoir quel manager vous êtes. C'est Théo qui nous amène tout de suite la boîte du DRH que vous êtes et dans laquelle je vais vous inviter à piocher un papier.
Je vais pas prendre la première.
Ah oui, voilà, faut bien retouiller un petit peu. Une phrase à compléter que je vous laisse nous lire.
Alors, dans ma boîte, je recherche des candidats qui, je recherche des candidats qui ont envie d'apprendre, qui ont envie de s'engager, qui ont envie de travailler dans une entreprise qui a une forte ambition, donc une vraie success story et une entreprise qui est en train de gagner des parts de marché et donc avoir une belle histoire à raconter. Et ces candidats, il faut qu'ils soient sur tous les métiers aujourd'hui de l'informatique. On recherche des gens, des architectes réseau, on cherche des commerciaux, on cherche des développeurs, on cherche vraiment sur tous les pans, tous les métiers qui sont aujourd'hui dans notre industrie.
Message adressé à ceux qui nous écoutent, qui nous regardent aussi en télévision, qui pourraient être intéressés, postuler chez vous. Je le disais, 2400 recrutements en France l'année dernière. Vous avez un objectif à atteindre cette année. Il faut le dépasser en 2024.
Il faut le dépasser.
Ouais, 3000 peut-être.
3000, 3500. En fait, tout dépendra aussi de nos clients et de la confiance qu'ils nous portent. Mais je suis très confiant là-dessus.
Merci beaucoup d'avoir joué le jeu. Merci d'avoir été avec nous, Bruno Dassola, DRH d'Inetum. Tout de suite, on appelle notre avocat.
Et on rejoint tout de suite Marguerite Chaitz, avocate en droit des entreprises en difficulté, fondatrice du cabinet Edma. Pour répondre à cette question, j'ai une entreprise de déménagement à Paris avec 15 salariés. Normalement, mes meilleurs mois sont de mai à septembre. Cette année, à cause des JO, j'ai une chute de 50% de mes contrats sur cette période. Que puis-je faire ?
Là, on est plutôt en présence de difficultés passagères, donc je préconise pas forcément l'ouverture d'une procédure amiable ou d'une procédure collective qui va plutôt être là pour traiter des difficultés structurelles d'une entreprise, mais plutôt essayer de jouer sur les charges de l'entreprise, essayer de diminuer ses charges face justement à cette diminution de chiffre d'affaires. Donc pour diminuer ses charges, on peut par exemple faire appel à la CCSF, la Commission des chefs de services financiers, qui est une commission en fait qui permettra d'échelonner sur possiblement 36 mois les dettes fiscales et sociales. Donc là, on aurait un véritable appel d'air finalement pour l'entreprise en difficulté, puisque elle n'aura pas à faire face à ses dettes de manière immédiate. Autre chose qu'on peut faire aussi, c'est faire appel au chômage partiel. Lorsqu'on est dans un cas avec une circonstance exceptionnelle, par exemple là les JO, on peut mettre certains de ses salariés ou la totalité de ses salariés en chômage partiel, et ce qui permet à l'entreprise donc de ne pas assumer la totalité ou partie des charges sociales. Et donc là encore, on a une diminution des charges sociales, une potentielle diminution des dettes fiscales et sociales comparativement à une diminution du chiffre d'affaires, ce qui nous permettrait d'arriver à l'équilibre et de ne pas être déficitaire.
Merci Marguerite Chaitz, avocate en droit des entreprises en difficulté, fondatrice du cabinet Edma. Écrivez-nous vous aussi pour interpeller nos avocats en droit du travail sur happyboulot@bfmbusiness.fr. On vous répond toutes les semaines dans notre émission avec nos experts.
Happy Boulot, le meeting.
Allez, encore une question pour vous, auditeurs, téléspectateurs. Faites-vous partie de ces personnes aux abonnés absentes à chaque fois qu'il faut faire face au changement, espérant peut-être parfois ainsi l'éviter, ce qui est rarement la bonne solution, hein, disons-le. Alors, comment se saisir du changement plutôt que de chercher à le contourner? C'est ce qu'on va essayer de vous expliquer dans notre meeting avec notre invité. Bienvenue, Geoffrey Guillochin.
Merci, bonjour.
Merci d'être là. Vous êtes l'auteur du livre, co-auteur, parce que vous êtes plusieurs, Le syndrome de l'opossum aux éditions Erol. Un livre pour apprendre à affronter le changement.
On peut le dire comme ça, un livre même carné. L'objectif, c'est de se poser la question, qu'est-ce qui se passe là pour moi? Qu'est-ce qui est en jeu et quels vont être mes réflexes? On peut même dire, c'est un livre aussi pour accepter le fait de ne pas changer éventuellement si, dans le fond... C'est là qu'on voulait aller, quoi.
Oui, parce que parfois, le changement, c'est pas forcément fait pour
c'est
tout
ça.
Le monde.
Et puis, il n'y a pas de raison de changer sur un truc qui marche. Donc, c'est vraiment se poser les questions et savoir quelle va être notre démarche.
Nous aider un peu mieux à savoir où est-ce qu'on se positionne quand on est peut-être un peu perdu dans une situation où on ne sait pas si on doit passer à autre chose ou au contraire se concentrer sur ce qu'on a déjà.
Clairement, dans des situations de blocage qui font face à des problèmes et on ne sait pas forcément où aller, une des premières choses à faire, c'est de se poser la question... Comment je peux regarder autrement mon histoire? Qu'est-ce qui se passe vraiment là? Qu'est-ce qui se joue? Et à partir de ces réponses-là, mes prochaines étapes sont plus simples pour entreprendre des choses et se dire, bon, ok, je vais changer dans telle ou telle direction.
Une fois qu'on a mis les choses vraiment sur la table, mis les plus et les moins aussi souvent. Est-ce qu'on vous conseille de faire ça? Parce que vous êtes aussi coach en entreprise. J'imagine que vous avez des petites astuces, des petites solutions.
Il y en a plein, c'est vrai. Et ça dépend des contextes. Donc parfois, faire des plus et des moins, ce sera utile. Parfois, ce ne le sera pas. Et c'est ça qui est un des messages qu'on veut partager à travers cet ouvrage, c'est partager sur le fait qu'il y a plein d'approches possibles. Il n'y a pas une seule réponse. Si vous le sentez d'aller faire des plus et des moins parce que ça vous aide, allez-y, faites-le. Et tentez des choses. J'allais dire d'où le nom qui est le syndrome de l'opossum.
C'est ça. J'allais y venir justement. Syndrome de l'opossum, c'est ne plus réussir à avancer, c'est renoncer au changement. Et donc c'est contre ça qu'on essaie de lutter.
Contre ça en termes de réflexe premier. L'opossum, c'est un petit animal qui a pour réflexe face au danger de faire le mort. Ça est très utile pour lui dans plein de situations. On a tendance à faire ça aussi parfois de temps en temps. Pas avoir le problème ou pas vouloir le changement, ne pas bouger. Là, c'est se dire, si c'est un réflexe premier, il y a de fortes chances que ce soit pas une bonne posture. Parfois, ça peut être utile. Parfois, il vaut mieux se poser des questions et se dire, ok, par où je vais, qu'est-ce que je fais?
Et il faut se poser, prendre le temps pour pouvoir répondre aussi à ces questions, parce que souvent, quand on a la tête dans le guidon, quand on est dans son quotidien, on n'a pas le recul pour faire ces choix-là.
C'est ça. Et c'est ça le plus dur. parce que la plupart du temps, on est pris dans « il y a urgence, faut que je fasse quelque chose ». Avec un monde qui bouge de plus en plus, avec l'émergence de plein de nouvelles technologies, de plein de défis, on se dit « il faut vite que j'aille dessus, il faut vite que je fasse quelque chose, il y a un enjeu ». Le piège, c'est de courir direct vers une solution sur un problème qui est mal défini.
Sans l'avoir analysé. Geoffrey Guillochin, je le disais, vous êtes vous-même donc coach en entreprise. Ouais. Quels sont les changements qui peuvent effrayer aujourd'hui aussi bien les patrons que les salariés quand on regarde l'actualité, quand on regarde l'actualité entreprise RH?
Un sujet dont on entend beaucoup parler, c'est l'intelligence artificielle aujourd'hui.
Bien sûr.
On l'entend un peu à toutes les sauces, et comme on ne sait pas forcément où est-ce qu'on va avec ça, en tout cas ceux qui ne bossent pas dans le sujet ne savent pas où est-ce qu'on va avec ça, il y a des craintes, il y a des peurs, il y a du stress. Ce qui amène à de la réaction, voire de la surréaction, des projections. Ça, c'est un des sujets sur lesquels on peut se poser des questions. C'est une superbe opportunité. Pourquoi faire? Où est-ce qu'on veut l'utiliser?
Il y a quoi d'autre? Parce qu'on parle beaucoup d'organisation du travail. Oui. La semaine de 4 jours, il y a des patrons qui font un peu l'autruche sur ces sujets-là et se disent « Non, il y a d'autres sujets, quoi. on va pas rentrer là-dedans. »
C'est ça. En fait, tout ce qui va toucher à notre habitude...
Oui.
C'est des choses sur lesquelles on va avoir tendance à vouloir mettre de côté parce qu'on est inconfortable face au changement. Et souvent, on parle de résistance au changement. Mais la résistance au changement, elle est normale. Ça veut dire qu'on va travailler quelque chose.
On l'a vu avec le télétravail, non? Après le Covid, il y avait beaucoup de résistance sur le télétravail. Oui. Et puis finalement, les employeurs ont cédé. Quand même, une grande partie, j'ai l'impression, se sont rendu compte que c'était bien, finalement, le télétravail.
Et j'allais justement rebondir là-dessus, en plus de la semaine de 4 jours, sur le télétravail. Il y a des endroits où on commence à se dire... Ah, on va peut-être revenir dessus parce qu'on veut que les gens soient là. Mmh. En fait, ce qu'on essaie de faire, c'est de revenir vers une ancienne habitude qui nous offrait sûrement des choses comme la sensation de contrôle ou le fait d'affirmer ces certitudes qu'on travaille bien si on est avec tout le monde au même endroit. En fait, la réponse, elle va se faire dans l'expérimentation. Est-ce que les résultats qu'on a avec le télétravail nous conviennent? Est-ce que les résultats qu'on pourrait obtenir avec une semaine de 4 jours nous conviennent ou non? Mais il faut tester.
J'ai l'impression, Geoffrey Guillochin, qu'il y a deux raisons à refuser le changement. La première, c'est quand on a des certitudes. On dit, non, on va pas toucher à ça parce que c'est pas la peine. L'autre, c'est quand on a des peurs.
Oui. Et souvent, quand on a des certitudes et qu'elles sont très affirmées, derrière, ça peut cacher une peur de « Ah ouais, mais si c'est pas ça, soit je vais me décrédibiliser, soit je vais aller vers quelque chose que je ne connais pas. » Quand on va parler de peur, c'est d'inconnu. Dès qu'on parle de changement, forcément, on ne sait pas où est-ce qu'on va atterrir.
Et oui, par définition.
Et c'est ça qui est dur. C'est ça le plus dur.
Est-ce qu'il faut, dans ce cas-là, se faire accompagner? Il y a des coachs comme vous. Peut-être s'appuyer sur, les ressources humaines, sur les salariés aussi, les inclure dans des discussions pour avoir leur avis. On sait que ce n'est pas souvent privilégié, surtout dans les grandes entreprises. On fait des sondages pour avoir un peu plus d'informations sur le bien-être au travail. Quand il s'agit de la stratégie de l'entreprise, on ne consulte pas autant.
Oui, et là il y a deux axes qui sont hyper intéressants. Il y a la partie j'ai besoin d'aide, je vais demander à des experts de m'aider, donc comme par exemple du coaching ou de l'accompagnement. Et il y a aussi miser sur la notion d'intelligence collective. L'intelligence collective, c'est faire appel aux personnes qui peuvent se sentir concernées, et dans un groupe on va essayer de faire émerger mieux que si on les avait pris individuellement. L'avantage de faire ça aussi, c'est que les gens du coup sont engagés dans ce qui est en train de se faire, deviennent presque les premiers supporters des actions qu'on peut voir, sur lesquelles on veut faire émerger de nouveautés. Et ça, c'est hyper fort, c'est hyper puissant, mais ça veut dire qu'on est capable de lâcher prise et de se dire je ne décide pas de tout seul, je ne sais pas tout seul.
Mais est-ce que vous avez des exemples concrets de scénarios comme celui-là qui ont fonctionné?
Oui, par exemple, dans un endroit où j'ai accompagné là il n'y a pas longtemps, un périmètre d'une centaine de personnes, et la question c'était de se dire comment on va s'organiser. Habituellement, on avait 2-3 managers qui décidaient, qui dessinaient. Voilà, ça va être ça les interactions. Là, ce qui a été fait, c'est de demander à une grosse partie, mais 2 volontaires, donc au final il y avait une vingtaine de personnes, de réfléchir à qui on est, qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait, quelles sont nos compétences, et quel serait le moyen le plus... utile et le plus efficace de nous organiser. Donc là, il y avait et de l'intelligence collective et du coaching, et on en ressort avec une organisation qui fait sens et auquel les gens adhèrent, en fait. Et ça, ça n'a pas de prix.
Ouais. Et donc, dans ce cas-là, ça a fonctionné.
Dans ce cas-là, ça a fonctionné. Mais ça ne veut pas dire que ça fonctionne toujours.
Voilà.
Et quand on teste, quand on va vers du changement, Au final, il faut accepter parfois d'échouer, et c'est normal.
Toutes les questions à se poser sur le changement avec vous, Geoffrey Guillochin, et les co-auteurs, donc, puisque vous êtes plusieurs, du syndrome de l'opossum aux éditions Erol. Merci beaucoup d'être venu
nous
parler de ça. Merci beaucoup, Geoffrey Guillochin. Pas de carte blanche aujourd'hui, mais une offre d'emploi qui, dans Happy Boulot, a attiré notre attention. On vous emmène en Tasmanie. L'île australienne propose 10 jobs insolites pour la basse saison, avec comme objectif de relancer le tourisme. François-Xavier.
Chasseurs de fantômes, chuchoteurs de vignes ou encore babysitters de womba, des marsupiaux qui ressemblent à des petits oursons bruns, voilà quelques-uns des 10 petits jobs insolites proposés par la Tasmanie. Derrière ces contrats bénévoles d'un jour, c'est surtout un joli coup marketing, l'idée de toucher les Australiens qui n'utilisent pas leur congé, car ils sont près de 9 millions à avoir accumulé 200 millions de jours de congé. Autant de potentiels touristes sur lesquels veut capitaliser la Tasmanie durant la période hivernale entre juin et août. Et inversement, un tiers des travailleurs du pays n'a pas de congés annuels. Cela se répercute sur la santé de la population. Un tiers des salariés australiens présentent des symptômes d'épuisement professionnel en avril 2024. L'Office de tourisme de l'île veut donc résoudre ces deux problèmes en cassant le train-train quotidien du travail et en offrant un moment d'évasion à la découverte des paysages et de la culture de ce territoire. Pour se tenter par l'aventure, une lettre de motivation de 50 mots maximum est demandée. Mais petit bémol, il faut être majeur et résider en Australie. L'Office de tourisme s'engage toutefois à prendre en charge les frais d'hébergement, de transport et de restauration.
Happy Boulot, le lab.
Et on retrouve Jeanne Spicarolène en 4 minutes avec vous et notre invitée, Jeanne, qui a mis au point une intelligence artificielle pour la gestion des compétences et des talents.
Oui, Erwan, aujourd'hui, nous sommes avec Jean-Guillaume Pelletier, cofondateur de Mindmatcher et créateur de la solution Jobsong.
Bonjour.
Bienvenue. Bonjour, merci. Bienvenue. En un mot, Jobsong, c'est une application qui propose aux salariés un plan de carrière personnalisé et réaliste, Jean-Guillaume.
Exactement. Ça répond en fait à l'enjeu des entreprises d'accompagner de manière individuelle et personnelle les salariés en les projetant dans des parcours de carrière qui soient possibles. Ça répond en fait à une demande qui est très forte de la part des collaborateurs, notamment des jeunes, puisqu'il y a quasiment une personne sur deux qui quitte son emploi avant 2 ans, quand elle a moins de 35 ans, parce qu'elle n'a pas justement de perspective de carrière.
Ça, c'est une tendance de plus en plus forte chez les jeunes générations. Quand on voit que ça ne bouge pas, on part.
Oui, mais pas seulement chez les jeunes. Alors, je peux donner d'autres chiffres. Hein, c'est 97% des gens qui souhaiteraient que leur entreprise investisse plus dans leur carrière. Le problème, c'est qu'elles n'ont pas les perspectives et la capacité en fait, d'identifier ce qui est vraiment possible pour elles. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les RH représentent uniquement 3% de la masse salariale en moyenne. Oui. Je l'ai échangé avec une entreprise dans laquelle ils sont 6 pour accompagner 6000 personnes qui demandent du coup chacune un niveau individuel.
Donc c'est pas juste une question de moyens financiers, c'est aussi une question de moyens techniques et c'est ce que vous apportez.
De moyens techniques pour en fait aider, assister l'humain justement à travers... du coup cette solution.
Oui. Et c'est aussi une question du coup d'économie pour l'entreprise qui fait appel à Jobsong, parce qu'on estime le coût moyen du désengagement d'un salarié à 15 000 euros par an et par salarié, c'est ça ?
Oui, c'est à la fois du coup cet enjeu-là, mais c'est vraiment aussi un enjeu d'attractivité des talents. Si je vous montre concrètement ce que vous pouvez faire comme parcours de carrière si vous rejoignez mon entreprise, ça va certainement plus vous attirer qu'ailleurs. Le temps en fait qui est gagné aussi par les entreprises, c'est en fait ce qui sert de base à tous ces éléments-là, c'est la construction d'un référentiel métier et compétences qui soit visible et lisible. Je ne sais pas si vous imaginez le temps que ça vous prendrait de créer 80 fiches d'emploi, fiches métiers avec les compétences afférentes, etc.
Et c'est ce que font encore beaucoup de RH.
C'est ce que font en fait 91% des RH n'ont pas un référentiel métier et compétences à jour.
Ouais.
Parce qu'en fait, le temps de le mettre en place, souvent c'est déjà obsolète. Et nous, du coup, on les aide, par exemple, sur cette partie-là.
Mais ce que vous disiez, si ces chiffres sont encore aussi importants, c'est même affolant en 2024 de se dire que c'est encore l'homme qui fait ça, alors qu'on pourrait accélérer, on pourrait améliorer les recrutements aussi en rajoutant une dose de numérique. Vous disiez que c'est quoi 3% de la masse salariale aujourd'hui, les ressources humaines, c'est qu'ils ne pèsent pas assez lourd pour se faire aussi entendre sur ces sujets ?
Alors, du coup, il y a un enjeu qui est très intéressant pour les RH à travers l'intelligence artificielle, parce que du coup, c'est le sous-jacent à tout ce qu'on est en train de raconter là. Et les RH vont avoir un rôle très particulier, en fait, sur cette question, à la fois parce qu'ils vont devoir intégrer l'intelligence artificielle pour leurs propres équipes avec des solutions telles que je la présente.
Mais ça, c'est si la direction accepte. Et souvent, il y a quand même encore des réticences.
Il y a un enjeu Tout à fait, mais il y a un enjeu à ce que du coup l'intelligence artificielle se propage aussi dans les compétences au sein des entreprises. Il y a déjà plus d'une personne sur deux qui fait ce qu'on appelle du shadow IA, c'est-à-dire qui utilise l'intelligence artificielle sans que son entreprise ne soit au courant. Mais ça, du coup, c'est des enjeux et d'opportunités aussi pour les entreprises. Donc ça peut permettre aux RH de remonter sur ces questions-là.
Et aujourd'hui, vous travaillez avec combien d'entreprises et avec qui, si vous pouvez nous le dire ?
Alors, on a surtout travaillé du coup Mindmatcher avec le secteur public. On a travaillé avec Pôle emploi, avec des régions. On a fait beaucoup de recherche et développement sur l'homogénéisation des référentiels métiers et compétences. Et du coup, JobSong, c'est du coup la solution qui intègre cette technologie-là. Je ne vais pas donner des noms. On a travaillé avec, par exemple, une grande banque de plus de 70 000 collaborateurs pour l'aider à présenter les parcours de carrière aussi sous la forme de plans de métro. Donc vous avez en fait les lignes de métro qui correspondent à des départements dans l'entreprise.
Ouais, pour savoir où on veut aller.
Exactement. Ouais. Et il y a certains métiers qui du coup représentent des hubs comme Châtelet. Comment est-ce que je bouge de l'un à l'autre ?
Ah là, on ne veut pas y aller.
Peut-être pas en ce moment. Ouais.
Mais juste pour terminer, est-ce qu'on se rend compte avec ce type de solution que vous développez qu'on peut accéder à des métiers auxquels on n'aurait pas forcément pensé au début, et on se dit que si l'employeur nous permet d'avoir la formation qui correspond au métier où il y a de la place, et que nous on a envie d'évoluer et qu'on se rend compte que ça nous plaît, et banco, on y va. Est-ce que ça existe, ce type d'exemple ?
Ce qui est génial du coup avec ce que vous dites, c'est qu'en fait ça répond à un double enjeu. Un enjeu du côté du salarié aussi, qui peut se dire, enfin qui peut, grâce à l'intelligence artificielle, se rendre compte de compétences qu'il a que son entreprise n'avait pas identifiées. Peut-être que vous parlez de langage des signes. Peut-être qu'a priori, ça n'intéressait pas l'entreprise dans le cadre de son référentiel, mais le fait de l'identifier, ça peut vous ouvrir des portes. Et l'intérêt de l'intelligence artificielle, c'est que c'est quelque chose qui est agnostique et qui, du coup, va peut-être vous faire des suggestions qui peuvent vous paraître surprenantes, auxquelles vous n'avez pas pensé. On arrive à détecter, pour vous donner un exemple, si vous avez été pompier volontaire, il y a de fortes chances pour que vous ayez une bonne résistance au stress. Du coup, est-ce que je vais penser à expliquer ça, à le déclarer?
Est-ce que mon employeur va pouvoir l'analyser?
Et oui, justement, grâce à ces différents référentiels que j'explique.
Passionnant, cette solution JobSong. Merci beaucoup, Jean-Guillaume Pelletier, cofondateur de Mindmatcher, d'être venu nous en parler. Merci, Jeanne. On se retrouve la semaine prochaine.
La semaine prochaine, tout à fait.
On prend rendez-vous. C'est tout pour aujourd'hui. Vous retrouvez cette émission, bien sûr, en replay, en podcast. Abonnez-vous pour recevoir, être les premiers à recevoir les nouveaux épisodes. Merci à Flo Alban qui était en régie. On se retrouve le week-end prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, bien sûr, soyez heureux au boulot.
Happy Boulot, l'émission qui vous sort de votre boîte.